MCI TV vous présente l'émission Face à Face. Dans ce Face à Face avec Yanis Gauthier, vous serez encouragé et fortifié dans votre foi.
Hello, hello mon ami, je suis heureux de te retrouver dans cette nouvelle émission Face à Face. Et j'avais quelque chose à te dire avant même d'aller plus loin. C'est celle-ci. Tu es quelqu'un qui est précieux aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu t'a réservé des bénédictions spéciales. Je dis que Dieu a en réserve pour toi quelque chose de beau, de bon, de glorieux. Dieu a une histoire à écrire dans ta vie et ta présence sur la terre est quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu. Et je sais également que, au travers de ta présence, Dieu va toucher d'autres personnes. Dieu va t'utiliser pour enrichir des vies. En fait, partout où tu passes, partout où tu vas, la bénédiction de l'Éternel t'accompagne et enrichit d'autres personnes. Aujourd'hui, je suis avec un invité qui est en tout cas, l'expression même de... comment je pourrais le définir de quelqu'un qui se donne à 300%, et encore le chiffre est faible pour Dieu, ça fait des années que je le connais. Il m'impressionne de par son charisme, de par son engagement, sa fougue, sa détermination. Enfin, il va te le dire mieux que moi. Il s'appelle Manu, il est avec nous pour l'émission Face à Face. Manu, bonjour.
Bonjour, bonjour à toi qui nous écoute. Bonjour Yanis, heureux d'être avec toi et avec ceux qui nous regardent et nous écoutent.
Quelle joie pour moi de te recevoir pour la première fois sur le plateau de l'émission Face à Face. Tu es déjà venu à MCI il y a quelques années déjà et puis on se retrouve maintenant au travers d'une distance, mais on est proche grâce à la technologie. Manu, je suis ravi de t'avoir pour cette émission. Je sais que tu vas apporter beaucoup de choses. Tu es chargé. Je vais faire attention à pas trop appuyer sur le détonateur de peur que ça implose et explose. En tous les cas, dis-nous et également présente-toi aussi pour ceux qui ne te connaissent pas. Dis-nous ce que tu fais maintenant. Parle-nous un petit peu de tout ça, de ton actualité.
Bonjour, je m'appelle Manu Bolomic. Je suis en même temps pasteur. Et ici sur Toulouse, on est en train de faire sortir sur terre, par la grâce de Dieu et par la puissance de Dieu, une nouvelle église à Toulouse. Et à côté de ça, pendant 20 ans et même encore, toujours aujourd'hui, un artiste chrétien, un rappeur aussi, dont du coup, je parcours les quartiers difficiles, les prisons, les concerts, les lycées, les collèges, les zones européennes, africaines, dans les îles, un peu partout, en apportant la vie que Jésus donne quand on croit en lui, et dans tous les milieux, donc du coup, même au Québec aussi, parfois dans des prisons et partout. Donc Dieu est bon, quoi, voilà, en gros.
Manu, il fait partie de ces personnes où qui vont là où ils ne doivent pas aller, c'est-à-dire que dans les prisons, dans les quartiers durs et difficiles, mais aussi dans les quartiers chics, pour prêcher l'évangile, pour rapper. Et puis, il fait ce que tout le monde ne fait pas, parce qu'il n'est absolument pas conventionnel, Manu. On ne peut pas t'enfermer dans une boîte. D'ailleurs, c'est vraiment particulier, puisque maintenant, tu es pasteur, mais tu n'es pas que pasteur, comme tu le dis. Tu fais également le tour de la francophonie pour partager ce que Dieu a mis sur ton cœur. Et en parlant de ça, je veux juste commencer par un verset qui m'a interpellé lorsque j'ai reçu un petit peu le déroulé de ton partage. C'est ce verset, psaume 51, verset 5, où il est dit: voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Alors, c'est pas franchement un verset que j'aurais choisi pour introduire ma vie, mais pourquoi toi tu l'as choisi?
Je l'ai choisi parce que je suis né dans un ghetto au Cameroun, vraiment pire qu'un ghetto, Yaoundé, Madagascar, ceux qui connaissent. Et puis, mon grand-père avec 11 enfants, ma mère était la première. Normalement, elle est censée réussir et puis éduquer les autres enfants. Et à 17 ans, elle est arrivée enceinte. Ça a été un déshonneur où toute la famille, dont mon grand-père s'est mis à boire. Ça a été terrible. Déjà dans un ghetto, t'es dans la galère. Mais si t'es un enfant bâtard, comme on m'appelait petit, dans un ghetto, c'était terrible. Donc du coup, j'étais pas attendu. Mon père n'a pas voulu épouser ma mère. Ma mère a su batailler. Ça a été terrible. Du coup, je sais que j'ai été conçu dans le péché, comme beaucoup d'enfants aujourd'hui, dans la façon de vivre et même dans l'attente de la famille. Et j'entendais les discours des gens quand j'étais petit, des oncles, des gens tout autour. Ça a été terrible à l'école. Chaque fois, dans son acte de naissance, quand tu as le nom du père, c'est barré, il n'y a rien d'écrit. Donc, du coup, c'est bizarre. C'est comme ça qu'on est né, et voilà.
T'as porté une étiquette qui t'a fait souffrir ou au travers de ce contexte un peu difficile, ta mère t'a quand même préservé ou t'as ressenti tout le poids du jugement?
Elle a fait ce qu'elle a pu, ma mère. Parce qu'elle a dû reprendre les études, s'éloigner parfois de la maison. J'ai grandi mes grands-parents, on était peut-être 17 dans la maison. Donc c'était toujours joyeux comme les Africains. Mais dans cette joie, j'avais cette solitude et cette tristesse qui, après, s'est transformée en colère et en haine, quoi.
Ça s'est traduit comment, tout ça, dans ta vie de jeune adulte?
Ça a été, au début, le manque, parce que mon anniversaire, c'était en novembre et Noël, c'était en décembre. Pour un enfant, ça se traduit par un manque. Et à l'adolescence, encore les moqueries, ça se traduit en violence. Donc immédiatement, on est rentré dans du rap violent, dans le monde de la nuit. Du coup, ça se traduit mal. Et puis, on tourne mal, et d'abord dans sa tête, et ensuite après en réalité, et vivant dans un ghetto. Le tout cumulé, ça a fait un cocktail Molotov qui allait bientôt exploser. C'est ça qui est compliqué et difficile.
À quel moment tu as décidé de changer? À quel moment tu es devenu la personne, en tout cas l'embryon de la personne que tu es maintenant?
C'est tout par des circonstances. Parce que moi, je m'étais dit, Dieu n'existait pas. Parce que dans ma famille, ils étaient un peu protestants. D'autres, un peu... mon grand-père était musulman et on m'a chopé par le col en disant, tu vas être catholique. J'ai fait enfant de cœur chez les catholiques. Je suis baptisé. Il a tellement parlé en latin, le prêtre, que je me suis endormi le jour du baptême. Mais après, je suis allé me faire confesser. Et je rêvais d'un Dieu vivant, mais que je voyais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit que Dieu n'existait pas. Il y a une partie de ma culture était animiste. À partir de 10 ans, on m'a ramené chez les rebouteux. On m'a scarifié partout avec le sang d'animaux. Je suis pas seul, hein, je sais que beaucoup vivent ça. Voilà, et ensuite... étant dans le milieu du rap, on avait fait une radio FM 94 sur Yaoundé. C'était le début du rap. J'étais rappeur. Et puis, ma mère m'avait sorti du ghetto. Elle m'avait mis dans un sub-lycée construit par des Canadiens. Et le jour de la rentrée, je voulais aller faire la fête dans les autres lycées et tout, parce qu'on était du monde du rap. Et puis, la nuit, le surveillant avait fermé le portail. Moi, j'ai sauté le mur du portail. Et puis, on passait derrière le bureau du proviseur. Le surveillant était là. Je me suis battu avec le surveillant le jour de la rentrée et on m'a viré le jour de la rentrée. Et quand j'ai regardé mon âge, c'était le même âge que ma mère quand elle est tombée enceinte. Et souvent, on croit qu'on ne va pas répéter ce que notre génération, la génération précédente a fait. Je pensais être meilleur même que ma mère, mais dans ce monde-là, je croyais. Et ce jour, j'ai compris que vraiment le péché était complètement... Ce n'est pas simplement un acte. C'est là où tu es né, comment tu as été conçu. Je suis allé voir un ami qui était chrétien, qui s'appelait Armand, et il m'a dit, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Et j'ai dit, mais comment on fait? Il m'a dit, mettons-nous à genoux. Moi, je savais pas, ça faisait 2 semaines, il venait plus en boîte. Et il avait dit, j'ai reçu Jésus. J'ai dit, on fait comment? Il a dit, demande pardon pour tes péchés. J'ai dit, il me dit, tous mes péchés. Il dit, allez, vas-y, fais ce que tu peux. J'ai demandé pardon, et j'ai juste dit une phrase. Si tu existes, viens dans mon cœur, change ma vie. Hey, Yanis. Il y a une paix qui m'a traversé de la tête jusqu'aux pieds, comme un fil électrique. Mais un truc, j'ai senti comme si mon cœur allait exploser. Mais un truc de malade. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey, Dieu est vivant. J'ai compris qui était Jésus. Immédiatement, là, sur place. C'est de là que c'est parti. C'était Jean, pourtant, j'avais été viré, j'avais été viré du lycée.
Le déclic, le début du changement. Qu'est-ce que tu peux dire, Manu, à tous ces jeunes ou ces moins jeunes qui vivent dans des contextes particuliers, bien qu'aujourd'hui, on sait que ce n'est pas parce que tu as vécu dans un contexte dur et difficile que tu dois en faire un prétexte pour vivre dans le péché, loin de là. Mais qu'est-ce que tu peux dire, justement, à toutes ces personnes qui vivent dans des contextes défavorables et qui pensent à un moment donné, comme toi, que bah, Dieu est loin, que Dieu ne s'intéresse pas à eux, que Dieu, finalement, n'a pas forcément des projets pour leur futur. Qu'est-ce que tu peux leur dire ?
Je trouve que, franchement, quand tu es dans la situation, c'est pas si, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas parce que on est dans l'émission là que on peut le prendre comme ça léger. C'est chaud. Et ce que je peux leur dire, c'est cette phrase que j'avais toujours. Si t'existes, montre-moi un jour que t'es vivant. Moi, j'attendais un signe du ciel, quoi. J'étais pas compliqué que ça. Mais je mentais pas à l'intérieur. Parce que vraiment, j'étais triste. Même parfois, on était en boîte de nuit, les gens chantaient, bougeaient, je me sentais quand même. Et franchement, Dieu, il a eu pitié de moi. Dieu te montrera toujours un signe qu'il est là. Il viendra toujours te chercher. Ce jour-là, ne dis pas non. Comme la Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Franchement, Dieu va créer un contexte favorable un jour pour toi, et il va te montrer qu'il t'aime, en fait. Toi, tu croiras que c'est toi qui as besoin d'aller vers lui, mais il va s'approcher de toi. Je pense que c'est ce jour-là qu'il ne faut pas rater. C'est ce que vraiment j'ai vécu. Je pense pas avoir toutes les histoires du monde, mais je pense que c'est ce jour-là qu'il ne faut pas rater.
En tout cas, il y a eu ton jour, et puis peut-être pour ceux ou celui ou celle qui nous regarde là maintenant, ça peut être ton jour. Faut pas remettre à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans ce contexte où finalement tu as cru que Dieu t'avait oublié, que Dieu ne s'intéressait pas à toi. Tu as cru que il n'y avait pas d'avenir pour toi et que tu étais destiné, tout comme plein de personnes, à mordre la poussière toute ta vie. C'est pas vrai, c'est faux. Parce qu'il y a le jour où tout commence et tout finit. Il y a le jour où tu décides de confier ta vie à Jésus-Christ, et ce jour-là, c'est le jour où tu abandonnes cette vie imprégnée de la noirceur du péché. Et avant même d'aller plus loin avec Manu, moi, je veux te donner l'occasion de dire oui à Jésus. Manu a demandé à Dieu un signe. Je crois que ce que tu entends, c'est un signe que Dieu te donne. Faut pas ignorer sa voix, faut pas endurcir ton cœur lorsque Dieu t'appelle. Peu importe qui tu es, peu importe où tu es, tu as le droit de confier ta vie à Jésus. Alors, si tu le souhaites, tu peux dire avec moi, « Seigneur, je te donne ma vie. » Fais-le comme Manu, comme moi, comme plein de personnes. Dis-lui, « Seigneur, je te confie ma vie. Seigneur, je me repens de mes péchés et je décide maintenant de te suivre. Je m'abandonne à toi et je te demande de me guider dans tes projets parfaits. » Et alors que tu fais cette prière, je te garantis que tu n'auras pas juste un signe. Dieu va te montrer de manière palpable et visible qu'il est avec toi, qu'il t'accompagne. Et il va te donner la force et la capacité, la détermination à vivre une nouvelle vie avec lui. C'est ce que Manu a vécu et a expérimenté. Manu, tu as écrit un livre qui s'appelle « Résurrection ». Résurrection, c'est un mot qui est fort, parce que quand on parle de résurrection, on parle d'un mort qui revient à la vie. Résurrection, mais je veux dire, tu n'auras peut-être pas le temps de nous raconter toute ta vie, mais pourquoi ce mot ? J'ai envie de savoir où tu as été pour... Tu sais, je veux dire, moi, je n'étais pas parfait. Ouais, il y a des moments dans ma vie où je me suis dit, là, tu es mort, ta conscience, elle est brûlée, quoi, parce que tu as été trop loin. Mais... pourquoi toi, t'en arrives à te dire « résurrection » ? Non, il faut que je l'appelle résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, mais on peut être mort de plusieurs manières. Alors que j'étais dans ce monde de violence, d'oppression, de péché, de sexuel horrible et tout, en fait, La mort, c'est quand tu ne crois plus que tu peux vivre autrement. La mort, c'est quand tu penses que tu es bloqué, que rien ne peut se passer. Quand tu vis dans un ghetto et que le jour de Noël, quand ton grand-père qui arrive et qui amène plusieurs cadeaux aux enfants, il donne, parce que mes cousins avaient l'âge de mon même âge, il donne des cadeaux à ses enfants et tout. Et c'est le soir de Noël, t'as 8 ans, et qu'il donne à tout le monde, et que toi, t'as pas de cadeau. Il regarde une tante qui est un peu âgée parce qu'il est surpris, toi, t'as rien, tu attends quelque chose, ton père ne pense pas à toi, ta mère n'est pas là. Et la poupée qu'une tante avait, il dit à ma tante, est-ce que tu peux partager avec Manu? Quand t'as un enfant dans ce monde et que tu te dis, même à Noël, même à ton anniversaire, t'as rien. La première fois que j'ai fêté mon anniversaire, c'est quand je suis arrivé en France, j'avais 18 ans. J'avais jamais fêté mon anniversaire. Mort, c'est quand il n'y a plus de foi en toi. Tu ne crois plus que demain, le jour peut se lever. Et t'as comme une mort dans toutes tes capacités. Du coup, au lycée, j'ai commencé à tricher. Tu crois plus à ton intelligence, tu crois plus aux dons que Dieu t'a donné, tu crois plus au talent que t'as. T'es mort. T'es mort. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, cette paix que j'ai ressentie, cet amour, il y a comme un volcan qui s'est allumé. Comme si on mettait un feu dans mon cœur. Je reprenais vie. C'est ça la différence. C'est ça Jésus-Christ. C'est de reprendre vie. Oui, j'ai demandé pardon pour mes péchés. Mais plus que ça, j'ai senti la vie revenir. Mais le goût de vivre, la joie de vivre. Oh, j'avais encore rien qui était arrivé. Mais je savais que demain n'allait plus être pareil. Ça, Amen. C'est fou. C'est ça, en fait. C'est ça, la mort. Et c'est ça, la résurrection.
C'est fort, c'est très fort. Tu as choisi un verset qui est également très parlant. Jérémie 1, verset 5. « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. » Je te repose encore la question, sans forcément revenir sur les réalités qui étaient la tienne dans ton enfance. Pourquoi ce verset ?
Je l'ai mis ce verset parce que quand j'ai suivi Jésus et que mes capacités ont commencé à renaître, toute capacité. Déjà au niveau scolaire, j'ai rattrapé mon retard, je fais la classe première, terminale, et je suis allé à l'université et j'ai jamais redoublé et je ne suis jamais allé au rattrapage. Il a restauré mon intelligence. Je valais tout par la tricherie, mon propre cerveau est passé d'une moyenne de 2 en maths à 2e du centre au bac. Je n'avais jamais imaginé qu'à l'intérieur de moi, il y avait de telles capacités. C'est ça quand Dieu t'a choisi depuis le ventre de la mère avant. Et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as encore déposé en moi ? Il a dit, je t'appelle, viens à mon service. Alors là, c'est parti dans tous les sens. J'ai écrit des chansons, mais après être venu à Jésus, c'est plus des chansons que j'ai écrites. C'est mon cœur pour Dieu. Ça a touché cette génération. J'ai vécu des temps incroyables. J'ai commencé à chanter dans mon quartier, dans les lieux où j'étais, dans les radios, dans les coins. Tout s'est ouvert. Ma vie a pris sens, a pris feu partout. C'est dans ce sens. Quand Dieu, je t'appelle, je t'ai formé depuis le ventre de ta mère. Mais c'est comme si, en donnant sa vie à Jésus, on recolle à qui on devrait être. Il y a beaucoup de toi qui nous regardent. Tu n'es pas encore qui tu dois être parce que tu n'es pas encore entre les mains de Dieu comme il faut. Tu n'es pas encore qui tu dois être parce que tu n'es pas encore entre les mains. La Bible dit, vous êtes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus pour bonne que Dieu a préparé d'avance. Mais si tu n'es pas entre ses mains, comment tu peux devenir son ouvrage? Et c'est dans ce sens que j'ai cru que la prédestination, avant que le monde ne soit monde, Dieu nous avait choisis. Viens à lui et laisse Dieu développer qui tu vas être. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, je suis en train de découvrir encore ce que Dieu est capable de faire pour ma vie. Et s'il le fait pour ma vie, un pauvre gars qui habite le ghetto, et toi mon ami, toi ma soeur, toi mon frère, mon ami, il peut le faire pour toi, je suis sûr.
Effectivement, Manu, tu as entièrement raison. La parole nous libère, elle est la vérité. Et donner ta vie à Jésus permet à Dieu de te montrer qui tu es véritablement. Et peut-être que tu es encore en train de te poser des questions ou en train de te chercher. Tu as un problème identitaire, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à t'identifier à ce que Dieu dit à ton sujet. Et comme Manu l'a dit, devenir l'ouvrage de Dieu, c'est au préalable décider de se donner, décider de s'offrir au potier divin afin qu'il façonne, transforme ta vie, pas comme tu le veux, mais comme lui le souhaite. Et peut-être que c'est la décision que tu dois prendre. Peut-être que tu sens qu'il y a des dons, des talents. Peut-être que tu es là à la croisée des chemins et tu ne sais pas quel chemin prendre pour entrer dans ta destinée. Peut-être que tu penses à ton futur et tu te demandes « Mais qui suis-je ? Comment vais-je atteindre cet objectif ? Il y a des rêves dans mon cœur, mais je ne sais pas comment je vais pouvoir les réaliser. » En fait, tout commence, le point de départ commence à partir du moment où toi, tu décides de t'approcher de Dieu, à partir du moment où tu décides de te laisser faire et de le laisser faire. Alors moi, je vais demander à Manu de prier pour toi et je crois que, alors qu'on va prier, Dieu va poser sa main sur toi. Et alors que Dieu pose sa main sur toi, je crois que tu vas vivre un changement, une transformation. Manu, est-ce que tu peux prier, s'il te plaît ?
Amen. C'est une grande grâce, je te loue parce que tu es incroyable. Je te loue parce que nous sommes une créature merveilleuse, extraordinaire que tu as créée pour ton bon plaisir. Et Seigneur, les projets que tu as pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais c'est des projets de paix et de bonheur. Seigneur, des projets, Seigneur, de vie. Je te prie pour tous ceux qui nous regardent, Seigneur mon Dieu, qui écoutent ce qu'on est en train de dire. Je prie que pour ceux, Seigneur mon Dieu, qui ouvrent leur cœur, tu y déposes ta vie. Tu y déposes, Seigneur mon Dieu, ta grâce, ta puissance, ton Saint-Esprit. Tu fortifies, tu encourages, tu sauves, Seigneur, que tu rappelles les projets, que tu rappelles les rêves, que tu bénis, Seigneur mon Dieu, que tu prends entre tes mains, que tu commences à façonner, Seigneur mon Dieu, la vie de plusieurs. Comme tu as dit à l'apôtre près, Pierre, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. Parce que tu as toujours une destinée, un avenir, un futur pour ce que tu appelles. Merci parce que tu le réalises. Seigneur, ceux qui croient en cette parole, Seigneur, vont commencer à être transformés par la parole de gloire en gloire et ils iront de victoire en victoire. Seigneur, le péché a une solution. Seigneur, l'addiction a une solution. Les peurs ont une solution. Tu es la solution, mais tu as bien plus pour nous. Seigneur, c'est dans le nom puissant de Jésus que je te remets ceux qui nous écoutent. Seigneur, et tu les bénis, Seigneur, qu'ils puissent rendre témoignage demain de ce que tu as la capacité de faire et qu'ils puissent célébrer ton nom pour ce que tu fais et ce que tu feras demain. Au nom de Jésus, amen.
Manu, te connaissant, je sais qu'il y a quelque chose qui te caractérise, c'est que tu es un opportuniste. Je vois que lorsque tu vois une opportunité, une porte qui s'ouvre pour partager le message de l'Évangile au travers de cette expérience que tu as vécue, notamment à la jeunesse, tu le fais et tu fais au-delà même de ce que beaucoup de personnes font puisque tu investis également beaucoup de ressources financières pour mener des projets. Tu l'as fait dans les prisons et tu le fais dans des campagnes où tu vas rapper, etc., dans des endroits où finalement on n'a pas envie forcément de mettre les pieds. C'est quoi ta vision, Manu, pour les jeunes ? J'ai visité ton église, extraordinaire de voir une telle croissance, une telle jeunesse. Et aussi, c'est particulier de voir ta fraîcheur. Malgré l'âge qui passe, tu te remets à jour constamment et tu réussis à transmettre cette fraîcheur et à connecter les jeunes au message de l'Évangile. C'est quoi ta vision ? C'est quoi qui te passionne dans ce que tu fais ?
Moi, vraiment, réellement, c'est, si je dois te dire la vérité, ce que j'aime, voir la personne de Christ se former dans l'autre, transmettre ce qu'on a à notre jeunesse pour qu'eux-mêmes soient capables de faire des grandes choses. J'aime voir des jeunes que j'avais à côté de moi exploser, bénir, transformer des vies. J'aime voir des jeunes ingénieurs créer. J'aime voir des jeunes chercheurs chrétiens. J'aime voir des entrepreneurs créer des sociétés. J'aime voir des jeunes réussir dans leurs études. J'aime voir des jeunes se mettre au cinéma. J'aime voir des nouvelles filières ouvertes. J'aime voir des jeunes aller implanter des grands lieux de culte, des églises. Je rêve pour la jeunesse. Le plus grand bonheur, c'est quand tu es père de quelque chose, quand tu sèmes dans quelqu'un et que tu vois ce que la personne devient, tu sais que tu peux mourir tranquille. Ça, c'est un bonheur. Quand tu n'as pas vécu le bonheur de la paternité spirituelle, c'est ça qui me passionne. C'est de voir des jeunes qu'on a eus à côté de nous progresser, grandir. Et vraiment, quand une jeune fille, elle veut me voir, elle me dit, avec mon mari, nous sommes maintenant dans le ministère. J'étais au camp de ski avec quand j'avais 8 ans et tu étais le pasteur. Tu t'occupes de nous. Est-ce que tu peux venir voir ma jeunesse? Mais je me dis, je peux dormir tranquille. J'ai réussi. Quand je vois un jeune m'appelle en disant, ben, est-ce que tu sais que dans mon église où on est 2000, 3000, viens, tu étais là, tu étais mon pasteur, je me dis, tranquille, quand un autre, ça c'est bonheur, des couples, des jeunes, des gens qu'on a aidés, aimés, pleurer avec eux. Ça c'est le bonheur, c'est le bonheur. Je trouve qu'il y a un autre bonheur dans le service de Dieu, c'est le bonheur de la transmission. Ça c'est fort.
Eh ben écoute, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais te demander de prier pour notre jeunesse parce qu'elle doit avoir sa place à l'Église, parce qu'elle a sa place dans le plan de Dieu. Et vraiment, il est important que chaque jeune puisse trouver sa place et que chaque leader d'Église puisse donner la place à la jeunesse. Est-ce que tu peux prier pour ça, Manu ?
Amen. Seigneur, je te prie enfin que vraiment tu bénis notre jeunesse. Seigneur, mon Dieu, des jeunes capables, des jeunes appelés, des jeunes consacrés, des jeunes forts, des jeunes remplis d'autorité, des jeunes remplis de talent. Seigneur, mon Dieu, ils se lèvent par-dessus toute cette francophonie dans nos églises. Ils sont là. Elles sont là. Seigneur, je te prie enfin que tu les équipes encore, que tu les remplis de ton Saint-Esprit, que tu les envoies, qu'ils commencent le travail, qu'ils commencent petits, mais qu'ils règnent grand. Seigneur, je prie afin que tu ouvres les portes, tu bénis tous les leaders d'église, les leaders de ministère. Seigneur, mon Dieu, qu'ils trouvent des pères et des mères spirituels, qu'ils trouvent des personnes qui vont les équiper, les envoyer. Seigneur, merci, Seigneur. Permets que plusieurs laissent leur place, élèvent des jeunes, leur mettent en situation, les bénis, les transmettent, Seigneur, au nom de Jésus, dans la sainteté et dans ta grâce. Seigneur, merci, Seigneur, de bénir cette jeunesse qui est magnifique, extraordinaire, talentueuse. Seigneur mon Dieu, c'est jeunesse lumineuse. Seigneur, pour le nom de Christ, que plusieurs âmes soient sauvées, que plusieurs découvrent ta parole. Et Seigneur mon Dieu, qu'on assiste à une multiplication d'ouvriers, d'églises, de ministères, Seigneur mon Dieu, au travers des jeunes qui se lèvent. Au nom Amen. De Jésus. Amen.
Amen. Merci Manu pour toutes ces pépites que tu nous as communiquées. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors nous saluons ton épouse, tes enfants. Nous saluons également l'église qui se trouve à Toulouse, ou particulièrement à Toulouse.
On est à côté de Padoie, métro Padoie à Toulouse, près de l'avenue Grande-Bretagne. C'est vraiment une église naissante, elle est extraordinaire, c'est la rencontre. Et c'est, franchement, c'est incroyable, une vie incroyable.
Voilà, on passera de voir si on passe à Toulouse. En tout cas, que Dieu te bénisse. Et puis, à une prochaine fois dans l'émission Face à Face. Merci les amis d'avoir participé à cette émission. Si vous avez vécu quelque chose de particulier, n'hésitez pas à nous envoyer votre témoignage et on pourra le lire et le partager à d'autres. À très bientôt. Ciao, c'était Yannis Gauthier.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Face à Face sur emcitv.com.